Chapitre 3. Le lendemain, je me déterminai à retourner à Thompson dans l'espérance d'engager mon hôte à me trouver un autre véhicule. Quand je lui en reparlais, je l'y trouvais très peu disposé. Une circonstance assez bizarre et que je n'aurais jamais devinée lui avait donné très mauvaise opinion de moi. Depuis mon ivresse de Lynn, j'avais une sorte de répugnance pour le vin et de crainte de l'état où j'avais été pendant quelques heures. En conséquence, pendant tout le temps que j'avais passé à l'auberge de Charleston, je n'avais bu que de l'eau. Cette abstinence, peu usitée en Angleterre, avait paru à mon oncle un vrai scandale. Ce fut par lui qui m'a pris la mauvaise impression qu'il en avait reçu comme autrefois, et ce fut l'homme qui m'avait précédemment loué un cabriolet et que je fis venir pour tâcher de renouer avec lui cette négociation. Et comme je me plaignis à lui de la conduite de son fils, il me répondit « Ah, monsieur, on dit de vous des choses singulières !» Cela m'étonna fort et, comme je le pressais, « Vous n'avez pas bu une goutte de vin depuis que vous êtes ici, » répliqua-t-il. Je tombai de mon haut. Je fis venir une bouteille de vin tout de suite, mais l'impression était faite et il me fut impossible de rien obtenir. Pour le coup, il fallut me décider. Je louai de nouveau pour le lendemain un cheval sous prétexte d'aller à Vendau voir si M. Bridge n'était pas arrivé. Malheur voulut que de deux chevaux qu'avait mon hôte, le plus mauvais était seul au logis. Je l'ai donc pour monture qu'un tout petit cheval blanc, horriblement laid et très vieux. Je partis le lendemain de bonne heure et j'écrivis de 6 à 12 000 de là à mon hôte que j'avais rencontré un de mes amis qui allait voir les courses de chevaux à Nottingham et qui m'avait engagé à l'accompagner. Ah, je ne savais pas les risques que je courais. La loi en Angleterre considère comme vol l'usage d'un cheval loué pour une autre destination que celle qui a été alléguée. Il ne tenait donc qu'au propriétaire du cheval de me faire poursuivre ou de mettre mon signalement dans les journaux. J'aurais infailliblement été arrêté et traduit en justice, et peut-être condamné à la déportation dans les îles, ou tout au moins j'aurais subi un procès pour vol, ce qui, même en supposant que j'eusse été absous, n'en aurait pas été moins fort désagréable. Et vu mon escapade reproduit partout où l'on était instruit, un effet affreux. Enfin, cela n'arriva pas. Le maître du cheval fut d'abord un peu étonné, mais il alla alors à Vandenau et, par bonheur, il trouva M. Bridge qui arrivait et qui, sur un mot que je lui avais adressé, répondit de mon retour. Quant à moi, ne me doutant de rien, je fis le premier jour une vingtaine de miles et je couchai à Kettering, petit village du Leicestershire, autant qu'il m'en souvient. Ce fut alors que commença vraiment et pour la première fois le bonheur d'indépendance et de solitude que je m'étais promis si souvent. Jusqu'alors, je n'avais fait qu'errer sans plan fixe et mécontent d'un vagabondage que je trouvais avec raison ridicule et sans but. Maintenant, j'avais un but, bien peu important, si l'on veut, car il ne s'agissait que d'aller faire des amis de collège visite de 15 jours, mais enfin c'était une direction fixe, et je respirais de savoir quelle était ma volonté. J'ai oublié les différentes stations que je fis en route sur mon mauvais petit cheval blanc, mais ce dont je me souviens, c'est que toute la route fut délicieuse. Le pays que je traversais était un jardin. Je passais par Leicester, par Derby, par Buxton, par Shotley, par Kendal, par Carlisle. De là, j'entrai en Écosse et je parvins à Édimbourg. J'ai eu trop de plaisir dans ce voyage pour ne pas chercher à m'en retracer les moindres circonstances. Je faisais de 30 à 50 miles par jour. Les 2 premières journées, j'avais un peu de timidité dans les auberges. Ma monture était si chétive que je trouvais que je n'avais pas l'air plus riche ni plus gentleman-like que lorsque je voyageais à pied. Et je me souvenais de la mauvaise réception que j'avais éprouvée en cheminant de la sorte. Mais je découvris bientôt qu'il y avait pour l'opinion une immense différence entre un voyageur à pied et un voyageur à cheval. Les maisons de commerce en Angleterre ont des commis qui parcourent ainsi tout le royaume pour visiter leurs correspondants. Ces commis vivent très bien et font beaucoup de dépenses dans les auberges, en sorte qu'ils y sont reçus avec empressement. Le prix de la dînée et de la couchée est fixé parce que les aubergistes s'en dédommagent sur le vin. J'étais partout considéré comme de ces commis et en conséquence reçu à merveille. Il y en avait toujours 7 ou 8 avec lesquels je causais. Et lorsqu'ils découvraient que j'étais d'une classe plus relevée que la leur, ne m'en traitaient que mieux. L'Angleterre est le pays où, d'un côté, les droits de chacun sont le mieux garantis, et où, de l'autre, les différences de rang sont le plus respectées. Je voyageais presque pour rien. Toute ma dépense et celle de mon cheval ne se montaient pas à une demi-guinée par jour. La beauté du pays, celle de la saison, celle des routes, la propreté des auberges, l'air de bonheur, de raison et de régularité des habitants, sont pour tout voyageur qui observe une source de jouissance perpétuelle. Je savais la langue de manière à être toujours pris pour un Anglais, ou plutôt pour un Écossais, car j'avais conservé l'accent écossais de ma première éducation en Écosse. J'arrivai enfin à Édimbourg le 12 août à 6 heures du soir, avec environ 9 à 10 shillings en poche. Je m'empressai de chercher mon ami Wilde, et 2 heures après mon arrivée, j'étais au milieu de toutes celles de mes connaissances qui se trouvaient encore en ville, la saison ayant éloigné les plus riches qui étaient dans leurs terres. Il en restait cependant encore assez pour que notre réunion fût nombreuse, et tous me reçurent avec le véritable transport de joie. Ils me savaient gré de la singularité de mon expédition, chose qui a toujours de l'attrait pour les Anglais. Notre vie à tous, pendant les 15 jours que je passai à Édimbourg, fut un festin continuel. Mes amis me régalèrent à qui mieux mieux, et toutes nos soirées et nos nuits se passaient ensemble. Le pauvre Wilde, surtout, avait à me fêter un plaisir qu'il ne témoignait de la manière la plus naïve et la plus touchante. Qui m'eût dit que 7 ans après, il serait enchaîné sur un grabat? Enfin, il fallut penser au retour. Ce fut à Wilde que je m'adressai. Il me trouva avec quelque peine, mais de la meilleure grâce du monde, 10 guinées. Je remontai sur ma bête. Et je repartis. J'avais été voir à Nidin, c'est Wanhope qui m'avait si bien accueilli quand j'étudiais, et j'avais appris que la sœur aînée était dans une petite ville, un bain, si je me trompe, appelé Moffat. Quoique je n'eusse pas trop de quoi prendre un détour, je voulus pourtant l'aller voir, je ne sais pourquoi, car c'était une personne fort peu agréable. 30 à 35 ans, laide, rouge, aigre et capricieuse au dernier point. Mais j'étais en si bonne disposition et si content de la réception qu'on m'avait faite que je ne voulais pas manquer une occasion de voir encore quelques-uns de ces bons Écossais que j'allais quitter pour un temps illimité. En effet, je ne les ai pas revus depuis. Je trouvais Mademoiselle Wanchope établi solitairement comme il convenait à son caractère. Elle fut sensible à ma visite et me proposa de retourner à Londres par les comtés de Cumberland et de Westmoreland. Un pauvre homme qu'elle protégeait se joignit à nous et nous fîmes une course assez agréable. Je gagnais de voir cette partie de l'Angleterre que je n'aurais pas vue sans cela. Car j'ai une telle paresse et une si grande absence de curiosité que je n'ai jamais de moi-même été voir ni un monument, ni une contrée, ni un homme célèbre. Je reste où le sort me jette jusqu'à ce que je fasse un bond qui me place de nouveau dans une toute autre sphère. Mais ce n'est ni le goût de l'amusement, ni l'ennui, aucun des motifs qui d'ordinaire décident les hommes dans l'habitude de la vie qui me font agir. Il faut qu'une passion me saisisse pour qu'une idée dominante s'empare de moi et devienne une passion. C'est ce qui me donne l'air assez raisonnable aux yeux des autres qui me voient, dans les intervalles des passions qui me saisissent, me contenter de la vie la moins attrayante et ne chercher aucune distraction. Le Westmoreland et le Cumberland, dans sa belle partie, car il y en a une qui est horrible, ressemble en petit à la Suisse. Ce sont d'assez hautes montagnes, dont la cime est enveloppée de brouillard au lieu d'être couverte de neige, des lacs semés d'îles verdoyantes, de beaux arbres, de jolis bourgs, deux ou trois petites villes propres et soignées. Ajoutez à cela cette liberté complète d'aller et de venir sans qu'une âme qui vive s'occupe de vous, et sans que rien rappelle cette police dont les coupables sont les prétextes et les innocents le but. Tout cela rend toutes les courses en Angleterre une véritable jouissance. Je vis à Keswick, dans une espèce de musée, une copie de la sentence de Charles Ier avec les signatures exactement imitées de tous les juges. Je regardais avec curiosité celle de Cromwell, qui, jusqu'au commencement de ce siècle, a pu passer pour un audacieux et habile usurpateur, mais qui ne mérite pas de nos jours l'honneur d'être nommé. Après m'avoir accompagné, je crois, jusqu'à Carlisle, Mademoiselle Van Rop me quitta en me donnant pour dernier conseil de ne plus faire de folie pareille à l'escapade qui lui avait valu le plaisir de me revoir. De là, je continuai ma route, ayant précisément de quoi arriver chez M. Bridge, où j'espérais trouver de nouvelles ressources, et toujours plus satisfait de mon genre de vie, dans lequel, je m'en souviens, je ne regrettais qu'une chose. C'était qu'il pût arriver un moment où la vieillesse m'empêcherait de voyager ainsi tout seul à cheval. Mais je me consolais en me promettant de continuer cette manière de vivre le plus longtemps que je pourrais. J'arrivais enfin à Vandenault, où je trouvais tout préparé pour ma réception. Monsieur Bridge était absent, mais revint le lendemain. C'était un excellent homme, d'une dévotion presque fanatique, mais tout cœur pour moi, qui s'était persuadé, sans que je lui dise, être venu tout exprès de Paris pour le voir. Il me retint chez lui plusieurs jours, me mena dans le voisinage et remit mes affaires à flot. Parmi les gens auxquels il me présenta, je me souviens que d'une Lady Charlotte Wadsworth, d'environ 70 ans, que je contemplais avec une vénération toute particulière, parce qu'elle était sœur du marquis de Rockingham, et que ma politique écossaise m'avait inspiré un grand enthousiasme pour l'administration des Whigs dont il avait été le chef. Pour répondre à toutes les amitiés de M. Bridge, je me pliais volontiers à ses habitudes religieuses, quoiqu'elles fussent assez différentes des miennes. Il rassemblait tous les soirs quelques jeunes gens dont il soignait l'éducation, deux ou trois servantes qu'il avait chez lui, des paysans, valets d'écurie et autres, leur lisait quelques morceaux de la Bible, puis nous faisait tous mettre à genoux et prononçait de ferventes et longues prières. Souvent il se roulait littéralement par terre, frappait le plancher de son front et se frappait la poitrine à coups redoublés. La moindre distraction pendant ces exercices, qui duraient souvent plus d'une heure, le jetait dans un véritable désespoir. Je me serais volontiers pourtant résigné à rester indéfiniment chez M. Bridge, tant je commençais à avoir peur de me présenter devant mon père. Mais comme il n'y avait plus moyen de prolonger, je fixais le jour de mon départ. J'avais rendu au propriétaire le fidèle petit cheval blanc qui m'avait porté durant tout mon voyage. Une passion pour cette manière d'aller me fit imaginer d'en acheter un sans songer à la difficulté que j'aurais à le sortir d'Angleterre. M. Bridge me servit de caution et je me retrouvai sur la route de Londres, beaucoup mieux monté et fort content de mon projet de retourner de la sorte jusque chez mon père. J'y arrivais, je ne sais quel jour de septembre, et toutes mes belles espérances se dissipèrent. J'avais pu très bien expliquer à M. Bridge pourquoi je me trouvais sans argent chez lui, mais je ne l'avais pas mis dans la confidence que je serais tout aussi embarrassé à Londres. Il croyait au contraire qu'une fois rendu là, les banquiers auxquels mon père avait dû m'adresser me fourniraient les fonds dont j'aurais besoin. Il ne m'avait donc prêté d'argent comptant que ce qu'il me fallait pour y arriver. Le plus raisonnable eût été de vendre mon cheval, de me mettre dans une diligence et de retourner le plus obscurément et le moins chèrement que j'aurais pu au lieu où il fallait enfin que je me rendisse. Mais je tenais au mode de voyager que j'avais adopté et je m'occupais à trouver d'autres ressources. Kentish me revint à l'esprit. J'allais le voir, il me promit de me tirer d'embarras et sur cette promesse, je ne m'occupais plus que de profiter du peu de temps pendant lequel je jouissais encore d'une indépendance que je devais reperdre si tôt. Je dépensais de diverses manières le peu qui me restait et je me vis enfin sans le sou. Des lettres de mon père, qui me parvinrent en même temps, réveillèrent en moi des remords que les désagréments de la situation ne laissaient pas que d'accroître. Il s'exprimait avec un profond désespoir sur toute ma conduite, sur la prolongation de mon absence, et me déclarait que, pour me forcer à le rejoindre, il avait défendu à ses banquiers de subvenir à aucune de mes dépenses. Je parlai enfin à Kentish, qui, changeant de langage, me dit que j'aurais dû ne pas me mettre dans cette position au lieu de me plaindre d'y être. Oh, je me souviens encore de l'impression que cette réponse produisit sur moi. Pour la première fois, je me voyais à la merci d'un autre qui me le faisait sentir. Oh, ce n'est pas que Kentish voulut précisément m'abandonner. Mais il ne me cachait, en m'offrant encore ses secours, ni sa désapprobation de ma conduite, ni la pitié qui lui décidait à me secourir, et son assistance était revêtue des formes les plus blessantes. Pour se dispenser de me prêter un sol, il me proposa de venir dîner chez lui tous les jours, et pour me faire sentir qu'il ne me regardait pas comme un ami qu'on invite, mais comme un pauvre qu'on nourrit, il est facta de n'avoir à dîner pendant 5 à 6 jours que ce qu'il fallait pour sa femme et pour lui, en répétant que son ménage n'était arrangé que pour 2 personnes. Je subordonnais cette insolence parce que j'avais écrit au banquier, malgré la défense de mon père, et que j'espérais me retrouver en état de faire sentir à mon prétendu bienfaiteur ce que ces procédés m'inspiraient. Mais ces malheureux banquiers étant, ou se disant à la campagne, me firent attendre leur réponse toute une semaine. Cette réponse vint enfin et fut un refus formel. Il fallut donc m'expliquer une dernière fois avec Kentish et il me prescrivit de vendre mon cheval et d'aller avec ce que j'en tirerais comme je pourrais, où je voudrais. Le seul service qu'il m'offrit fut de me mener chez un marchand de chevaux qui me l'achèterait tout de suite. Je n'avais pas d'autre parti à prendre. Et après une scène attendrie où je me serais brouillé tout à fait avec lui s'il ne s'était pas montré aussi insensible à mes reproches qu'il l'avait été à mes prières, nous allâmes ensemble chez l'homme dont il m'avait parlé. Il m'offrit 4 louis de ce cheval qui m'en avait coûté 15. Et j'étais dans une telle fureur qu'au premier mot, je traitais indignement cet homme qui, au fond, ne faisait que son métier. Et je faillis être assommé par lui et ses gens. L'affaire ayant manqué de la sorte, Kentish, qui commençait à avoir autant envie d'en finir que moi, m'offrit de me prêter 10 guinées à condition que je lui donnerais une lettre de change pour cette somme et que de plus je lui laisserais ce cheval qu'il promit de vendre comme il le pourrait à mon profit. Je n'étais le maître de rien refuser. J'acceptai donc et je partis, me promettant bien de ne plus faire d'équipée ensemble. Par un reste de goût pour les expéditions chevaleresques, je voulus aller à Franc-Étrier jusqu'à Douvres. Oh, c'est une manière de voyager qui n'est pas d'usage en Angleterre, où l'on va aussi vite et à meilleur marché en chaise de poste. Mais je croyais indigne de moi de n'avoir pas un cheval entre les jambes. Le pauvre chien, qui m'avait fidèlement accompagné dans toutes mes courses, fut la victime de cette dernière folie. Oh, quand je dis dernière, je parle de celle que je fis en Angleterre, d'où je partis le lendemain. Il succomba à la fatigue à quelques miles de Douvres. Je le confiai presque mourant à un postillon avec un billet pour Kentish dans lequel je lui disais que, comme il traitait ses amis comme des chiens, je me flattais qu'il traiterait ce chien comme un ami. J'ai appris, plusieurs années après, que le postillon s'était acquitté de ma commission et que Kentish montrait le chien à un de mes cousins qui voyageait en Angleterre en lui disant que c'était un gage de l'amitié intime et tendre qui le réunissait pour toujours à moi. En 1794, Kentish s'est avisé de m'écrire sur le même ton en me rappelant les délicieuses journées que nous avions passées ensemble en 1787. Je lui ai répondu assez sèchement et je n'en ai plus entendu parler. Au moment où je mettais pied à terre à Douvres, un paquebot allait partir pour Calais. J'y fus reçu et le 1er octobre, je me retrouvai en France. C'est la dernière fois jusqu'à présent que j'ai vu cette Angleterre, asile de tout ce qui est noble, séjour de bonheur, de sagesse, de liberté. Mais il ne faut pas compter sans réserve sur les promesses de ses amis de collège. Du reste, je suis un ingrat. J'en ai trouvé 20 bons pour un seul mauvais. À Calais, nouvel embarras. Je calculais que je n'avais aucun moyen d'arriver à Bois-le-Duc où était mon père avec le reste de mes 10 guinées. Je sondais M. Dessin, mais il était trop accoutumé à des propositions pareilles de la part de tous les aventuriers allant en Angleterre ou en revenant pour être très disposé à m'entendre. Je m'adressai enfin à un domestique de l'auberge qui, sur une montre qui valait 10 louis, m'en prêta 3, ce qui m'assurait pas encore mon arrivée. Puis je me remis à cheval pour aller nuit et jour jusqu'à l'endroit où je n'avais à attendre que du mécontentement et des reproches. En passant à Bruges, je tombai entre les mains d'un vieux maître de poste qui, sur ma mine, avisa avec assez de pénétration qu'il pourrait me prendre pour dupe. Il commença par me dire qu'il n'avait pas de chevaux et qu'il n'en aurait pas de plusieurs jours, mais il offrit de m'en procurer à un prix excessif. Le marché fait, il me dit que le maître des chevaux n'avait pas de voiture. C'était un nouveau marché à faire où l'ancien a payé. Je pris le premier parti. Mais quand je croyais tout arrangé, il ne se trouva pas de postillon pour me conduire. Je n'en obtins un qu'à des conditions tout aussi exorbitantes. J'étais tellement dévoré au fond du cœur de pensées tristes et sur le désespoir dans lequel je me figurais mon père, dont les dernières lettres avaient été déchirantes, et sur la déception que j'allais éprouver, et sur la dépendance qui m'attendait et dont j'avais perdu l'habitude, que je n'avais la force de me fâcher ni de disputer sur rien. Je me soumis donc à toutes les friponneries du coquin de maître de poste, et enfin je me remis en route, mais je n'étais pas destiné à aller vite. Il était environ 10 heures quand je partis de Bruges, abîmé de fatigue. Je m'endormis presque tout de suite. Après un assez long somme, je me réveillai, ma chaise était arrêtée et mon postillon avait disparu. Après m'être frotté les yeux, avoir appelé, crié, juré, j'entendis à quelques pas de moi un violon. C'était dans un cabaret où des paysans dansaient, et mon postillon avec eux de toutes ses forces. À la poste, avant Anvers, je me trouvais, grâce à mon fripon de Bruges, hors d'état de payer les chevaux qui m'avaient conduit, et pour cette fois, je ne connaissais personne. Il n'y avait personne non plus qui parlât français, et mon assez mauvais allemand était presque inintelligible. Je tirai une lettre de ma poche, et je tâchais de faire comprendre par signe au maître de poste que c'était une lettre de crédit sur Anvers. Comme heureusement personne ne pouvait la lire, on me crut, et j'obtins qu'on me conduirait jusque-là, en promettant, toujours par signe, de payer tout ce que je me trouvais devoir. À Anvers, il fallut encore que mon postillon me prêtât de l'argent pour payer un bac, et je me fis conduire à l'auberge. Oh, j'y avais logé plusieurs fois avec mon père. L'aubergiste me reconnut, paya ma dette et me prêta de quoi continuer ma route. Mais il m'avait pris une telle peur de manquer d'argent que pendant que l'on mettait les chevaux, je courus chez un négociant que j'avais vu à Bruxelles et que je me fis donner encore quelques louis, quoique, selon toutes les probabilités, ils dussent m'être fort inutiles. Enfin, le lendemain, j'arrivai à Bois-le-Duc. J'étais dans la plus horrible angoisse, et je restai quelque temps sans avoir la force de me faire conduire au logement que mon père habitait. Il fallut pourtant prendre mon courage à deux mains et m'y rendre. Pendant que je suivais le guide qu'on m'avait donné, je frémissais et les justes reproches qui pourraient m'être adressés, et plus encore de la douleur et peut-être de l'état de maladie causé par cette douleur dans laquelle je pourrais trouver mon père. Ces dernières lettres m'avaient déchiré le cœur. Il m'avait mandé qu'il était malade du chagrin que je lui faisais, et que si je prolongeais mon absence, j'aurais sa mort à me reprocher. J'entrai dans sa chambre. Il jouait au whist avec 3 officiers de son régiment. « Oh, vous voilà !» me dit-il. « Comment êtes-vous venu ?» Je lui dis que j'avais voyagé, moitié à cheval, moitié en voiture, et jour et nuit. Il continua sa partie. Je m'attendais à voir éclater sa colère quand nous serions seuls. Tout le monde nous quitta. « Vous êtes fatigué, me dit-il, allez-vous coucher. » Il m'accompagna dans ma chambre. Comme je marchais devant lui, il vit que mon habit était déchiré. « Voilà toujours, dit-il, ce que j'avais craint de cette course. » Il m'embrassa, me dit le bonsoir et je me couchai. Je restai tout abasourdi de cette réception qui n'était ni ce que j'avais craint, ni ce que j'avais espéré. Au milieu de ma crainte d'être traité avec une sévérité que je sentais méritée, j'aurais eu un vrai besoin, au risque de quelques reproches, d'une explication franche avec mon père. Mon affection s'était augmentée de la peine que je lui avais faite. J'aurais eu besoin de lui demander pardon, de causer avec lui de ma vie future. J'avais soif de regagner sa confiance et d'en avoir en lui. J'espérais, avec un mélange de crainte, que nous nous parlerions le lendemain plus à cœur ouvert. Mais le lendemain n'apporta aucun changement à sa manière, et quelques tentatives que je fis pour amener une conversation à ce sujet, quelques assurances de regret que je hasardais avec embarras, n'avaient obtenu aucune réponse. Il ne fut pendant les 3 jours que je passai à Bois-le-Duc question de rien entre nous. Je sens que j'aurais dû rompre la glace, ce silence qui m'affligeait de la part de mon père, le blessait probablement de la mienne. Il l'attribuait à une insouciance très blâmable après une aussi inexcusable conduite. Et ce que je prenais pour de l'indifférence était peut-être un ressentiment caché. Mais dans cette occasion, comme dans 1000 autres de ma vie, j'étais arrêté par une timidité que je n'ai jamais pu vaincre. Et mes paroles expiraient sur mes lèvres dès que je ne voyais pas encouragé à continuer. Mon père arrangea donc mon départ avec un jeune Bernois, officier dans son régiment. Il ne me parla que de ce qui se rapportait à mon voyage, et je montai en voiture, sans une parole un peu claire sur l'équipée que je venais de faire ou le repentir que j'en eus, et sans que mon père m'eût dit un mot qui montra qu'il en eût été triste ou mécontent. Le Bernois avec qui je faisais route était une des familles aristocratiques de Berne. Mon père avait ce gouvernement en horreur et m'avait élevé dans ses principes. Ni lui ni moi ne savions alors que presque tous les vieux gouvernements sont doux parce qu'ils sont vieux, et tous les nouveaux gouvernements durs parce qu'ils sont nouveaux. J'accepte pourtant le despotisme absolu, comme celui de Turquie ou de Russie, parce que tout dépend d'un homme seul qui devient fou de pouvoir, et alors les inconvénients de la nouveauté, qui ne sont pas dans l'institution, sont dans l'homme. Mon père passait sa vie à déclamer contre l'aristocratie bernoise, et je répétais ces déclamations. Ne le réfléchissions pas que nos déclamations mêmes, par cela seul qu'elles étaient sans inconvénient pour nous, se démontraient fausses. Oh, elles ne le furent pourtant pas toujours sans inconvénient. À force d'accuser d'injustice et de tyrannie les oligarques qui n'étaient coupables que de monopole et d'insolence, mon père les rendit injustes pour lui, et lui en écouta enfin sa place, la fortune et le repos des 25 dernières années de sa vie. Rempli de toute sa haine contre le gouvernement de Berne, je me trouvai à peine dans une chaise de poste avec ce Bernois, que je commençai à répéter tous les arguments connus contre la politique, contre les droits enlevés au peuple, contre l'autorité héréditaire, etc., ne manquant pas de promettre à mon compagnon de voyage que, si jamais l'occasion s'offrait, je délivrerais le pays de Vaud de l'oppression où le tenaient ses compatriotes. Oh, l'occasion s'est offerte 11 ans après, mais j'avais devant les yeux l'expérience de la France où j'avais été témoin de ce qu'est une révolution, et acteur assez impuissant dans le sens d'une liberté fondée sur la justice, et je me suis bien gardé de révolutionner la Suisse. Ce qui me frappe quand je me retrace ma conversation avec ce Bernois, c'est le peu d'importance qu'on attachait alors à l'énonciation de toutes les opinions et la tolérance qui distinguaient cette époque. Si l'on tenait aujourd'hui le quart d'un propos semblable, on ne serait pas une heure en sûreté. Nous arrivâmes à Berne où je laissais mon compagnon de voyage et pris la diligence jusqu'à Neuchâtel. Je me rendis le soir même chez Madame de Charrière. Je fus reçu par elle avec des transports de joie et nous recommençâmes nos conversations de Paris. J'y passai 2 jours et j'eus la fantaisie de retourner à pied à Lausanne. Madame de Charrière trouva l'idée charmante parce que cela cadrait, disait-elle, avec toute mon expédition d'Angleterre. C'eût été, raisonnablement parlant, une raison de ne pas faire ce qui pouvait la rappeler et d'éviter ce qui me faisait ressembler à l'enfant prodigue. Enfin, me voilà dans la maison de mon père et sans autre perspective que d'y vivre paisiblement. Sa maîtresse, que je ne connaissais pas alors pour telle, tâcha de m'y arranger le mieux du monde. Ma famille fut très bien pour moi, mais j'y étais à peine depuis 15 jours que mon père me manda qu'il avait obtenu du duc de Brunswick, qui était alors à la tête de l'armée prussienne en Hollande, une place à sa cour et que je devais faire mes préparatifs pour aller à Brunswick dans le courant de décembre. J'envisageais ce voyage comme un moyen de vivre plus indépendant que je ne l'aurais pu en Suisse, et je ne fis aucune objection. Mais je ne voulais pas partir sans passer quelques jours chez Madame de Charrière, et je montai à cheval pour lui faire une visite. Outre le chien que j'avais été obligé d'abandonner sur la route de Londres à Douvres, j'avais ramené une petite chienne à laquelle j'étais fort attaché. Je la pris avec moi. Dans un bois qui est près d'Yverdon, entre Lausanne et Neuchâtel, je me trompais de chemin et j'arrivais dans un village à la porte d'un vieux château. 2 hommes en sortaient précisément avec des chiens de chasse. Ces chiens se jetèrent sur ma petite bête, non pour lui faire du mal, mais au contraire par galanterie. Je n'appréciais pas bien leur motif, et je les chassais à grands coups de fouet. L'un des 2 hommes m'apostropha assez grossièrement. Je lui répondis de même et lui demandai son nom. Il me dit, en continuant les injures, qu'il s'appelait le chevalier Duplessis des Pandes, et après nous être querellés encore quelques minutes, nous convînmes que je me rendrais chez lui le lendemain pour nous battre. Je retournai à Lausanne et je racontai mon aventure à un de mes cousins en le priant de m'accompagner. Il me le promit, mais en me faisant la réflexion qu'en allant moi-même chez mon adversaire, je me donnais l'apparence d'être l'agresseur. Qu'il était possible que quelque domestique ou garde-chasse eût pris le nom de son maître et qu'il valait mieux envoyer à Épande avec une lettre pour m'assurer de l'identité du personnage et dans ce cas fixer un autre lieu de rendez-vous. Je suivis ce conseil. Mon messager me rapporta une réponse qui certifiait que j'avais bien eu affaire avec M. Duplessis, capitaine au service de France, et qui d'ailleurs était rempli d'insinuations désobligeantes sur ce que j'avais pris des informations au lieu de me rendre moi-même au lieu et au jour qui étaient fixés. M. Duplessis indiquait un autre jour sur le territoire de Châtelois. Nous partîmes, mon cousin et moi, et pendant la route, nous fûmes d'une gaieté folle. Ce qui me suggère cette remarque, c'est que tout à coup, mon cousin me dit « Ben, il faut avouer que nous y allons bien gaiement. » Je ne pus pas m'empêcher de rire, parce qu'il s'en faisait un mérite à lui qui ne devait être que spectateur. Quant à moi, je ne m'en fais pas non plus. Je ne me donne pas pour plus courageux qu'un autre, mais un des caractères que la nature m'a donné, c'est un grand mépris pour la vie et même une envie secrète d'en sortir pour éviter ce qui peut encore m'arriver de fâcheux. Je suis assez susceptible d'être effrayé par une chose inattendue qui agit sur mes nerfs. Mais dès que j'ai un quart d'heure de réflexion, je deviens sur le danger d'une indifférence complète. Nous couchâmes en route et nous étions le lendemain à 5 heures du matin à la place indiquée. Nous y trouvâmes le second de M. Duplessis, un M. Pilichaudet d'Yverdon, officier comme lui en France, et qui avait toutes les manières et toute l'élégance d'une garnison. Nous déjeunâmes ensemble. Les heures se passaient et M. Duplessis ne paraissait pas. Nous l'attendîmes ainsi inutilement toute la journée. M. Pilichaudet était en fureur et s'épuisait en protestations que jamais il ne reconnaîtrait pour son ami un homme qui manquait un rendez-vous de cette espèce. « J'ai eu, me disait-il, 1000 affaires pareilles sur le dos, et j'ai toujours été le premier au lieu indiqué. Oh, si Duplessis n'est pas mort, je le renie, et s'il ose m'appeler encore son ami, oh, il ne mourra que de ma main. » Il s'exprimait ainsi dans son désespoir chevaleresque, lorsqu'arriva subitement de mes oncles, père du cousin qui m'avait accompagné. Il venait m'arracher au péril qui me menaçait, et fut tout étonné de me trouver causant avec le second de mon adversaire sans que son adversaire se fût présenté. Après avoir ainsi attendu encore, nous prîmes le parti de nous en retourner. M. Pilichaudet nous devança, et comme nous passions devant la campagne qu'habitait M. Duplessis, nous trouvâmes toute la famille sur le grand chemin qui venait me faire des excuses.